Bulles et reportages, principe actif. Bulles et reportages.
Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler des vacances apprenantes qui se passent au lycée Aristide Briand d'Evreux à Évreux.
Les classes du CP au 3e ont réalisé des reportages, débats, interviews et des livres audio.
Si on se lançait dans les reportages.
Pour commencer, nous allons écouter la classe de 6e et de 5e qui ont réalisé des reportages à travers les différents intervenants proposés durant cette semaine.
Alors bonjour, quel est le nom de l'association ?
Nous sommes les Réseaux Réciproques Évreux-La Madeleine.
Ok, et ça consiste en quoi ?
Alors nous sommes une association qui fait de l'échange de savoir, c'est-à-dire que tout le monde a quelque chose à apprendre à tout le monde et inversement, et nous faisons aussi de l'accompagnement à la scolarité. Nous aidons les enfants à faire leurs devoirs après l'école et nous leur proposons les mercredis et les vacances des sorties culturelles ou artistiques.
Ok, merci. Alors, première question, quelles sont les choses importantes dans cette activité ?
Bah, les choses importantes, c'est de promouvoir à fond la scolarité de tous les enfants des quartiers populaires. Donc nous, on travaille à la Madeleine.
D'accord. Qu'est-ce que ça apporte aux élèves ?
Alors nous pouvons leur apporter un lieu de tranquillité pour faire les devoirs, de l'aide, car nous travaillons avec beaucoup de bénévoles et beaucoup d'anciens professeurs. Des professeurs de maths, des professeurs de physique, chimie, des professeurs de français. Donc c'est vraiment pour... Le principal de notre activité, c'est de la réussite scolaire des élèves, du CP à la terminale.
Expliquez-nous ce que vous faites.
On fait des Scooby-Doo.
Qu'est-ce qui est intéressant dans cette activité ?
De profiter.
Ah oui, de profiter à faire quoi ?
Des Scooby-Doo.
D'accord, merci.
Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez terminer Scooby-Doo ?
On va faire... Avec les Scooby-Doo, on va faire les porte-clés.
Merci à la classe de CP d'avoir répondu à nos questions.
Alors bonjour, je présente l'activité Le Vrai du Faux. Alors le Vrai du Faux, ce sont soit des images qui sont fausses ou vraies, ce qu'on appelle les fake news, hein. Donc c'est un peu ça, cette activité. Donc c'est à partir d'une vidéo et ils doivent deviner ce qui est vrai. Les choses importantes et à retenir, c'est justement quand on reçoit une image sur Snapchat, Insta ou Facebook, hein, il faut regarder si c'est bien vrai. Avant de la partager à nouveau, il faut être bien sûr de ce qu'on partage.
Qu'est-ce que ça apporte aux élèves ?
Alors, ce que ça peut apporter aux élèves, c'est justement à partir du moment qu'on partage une info, une image ou quoi que ce soit, c'est d'être vraiment dans la vérité, sans apporter n'importe quoi. Il peut y avoir une image qu'un copain aurait envoyée et puis cette image peut porter des fois préjudice. Donc voilà, ce qu'il apporte, c'est vraiment de savoir si l'information qu'il a reçue est bien vraie.
À quoi cet atelier sert à la vie quotidienne ?
Alors cet atelier sert en effet dans la vie de tous les jours. Si toi-même tu as un portable et ça arrive d'avoir des images de copains, de copines ou même des images de la télé ou quoi que ce soit, ça te permet de vraiment voir si elle est fausse ou vraie. Ça te permet aussi de, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas partager n'importe quand et n'importe comment surtout.
D'où venez-vous ?
Alors, moi, je viens du service jeunesse de la ville d'Évreux. Voilà, je suis une animatrice info jeunesse, tout simplement. J'apporte de l'information dans les lycées, les collèges et un peu tout dans les centres sociaux. De l'information pour le jeune du quotidien du 11 à 25 ans.
Merci.
Après.
Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais ?
Je joue à des jeux. Ça s'appelle Lego Brick Broquet.
C'est quoi le but du jeu ?
Il faut que tu construis des trucs.
D'accord. T'aimes bien ? Et pourquoi tu as choisi de venir à vacances apprenantes ?
Ou alors est-ce que c'est tes parents qui m'ont choisi?
En fait, ils voulaient venir, c'est parce que en fait, rester à la maison, c'est nul. Du coup, ils voulaient venir avec mes amis parce qu'il y avait ma cousine et mon ami.
Et du coup, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette activité?
Bah, ici, là, oui, en classe.
Non, dans cette activité, bah, ce que tu es en train de faire maintenant.
Bah, en fait, j'étais en train de construire un robot.
Tu retournes le buisson pour voir ce qu'il y a dans le sous. Parce que ce qu'il faudrait, c'est que tu trouves du pollen. Et là, ici, c'est marqué. Si tu trouves du pollen, tu récupères donc un petit anneau doré. Si tu trouves de la pollution, tu te salis. Tu as des infirmières qui peuvent te nettoyer. Et là, tu vas tomber sur une tornade. Alors, la tornade, on va prendre le dé. Il est où, il est là, le dé? Et bien, tu vas lancer le dé pour savoir de combien tu as fait la tornade. Tornade de 4.
Est-ce que votre association partage ses activités avec des enfants pauvres?
Elle est faite pour côtoyer tout le monde. Riches, pauvres, vieux, jeunes, de toutes les couleurs, de toutes les religions, sans distinction.
Est-ce que ça t'intéresse ces activités avec l'association Maca?
Non.
Ça t'intéresse pas du tout? Rien de rien.
Tu peux m'expliquer là ce que tu es en train de faire?
On était en train de jouer un jeu sur la pollinisation.
Ouais, et ça consiste en quoi?
Des ateliers. C'est bien de travailler et de jouer un jeu au moins.
Ouais.
Et de réfléchir.
Et le jeu s'appelle comment?
Ça s'appelle
Panique dans les roches.
T'es content d'être venu aujourd'hui à et c'est toi qui as choisi ou c'est quelqu'un d'autre, c'est tes parents?
C'est moi qui ai choisi.
C'était pourquoi tu voulais pas rester chez toi, voir tes copines?
Je voulais y aller parce qu'il y a des activités sportives et tu peux travailler le matin. On apprend des choses qu'on ne sait pas encore.
On compte jusqu'à deux aussi. On peut essayer ça?
Oui.
Les tambourins, vous comptez jusqu'à deux. Et après le caron, tu tapes deux sur les deux fois aussi. D'accord? Tambourin, vous êtes prêts? On y va.
Importante dans cette activité?
Alors, dans notre activité, ce qui est important, ça va être l'écoute des autres, ça va être de jouer en groupe, ça va être de respecter tout le monde. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse tous attention à tout le monde pour que la musique soit jolie.
Très bien. Et qu'est-ce que ça apporte aux élèves?
Alors ça apporte on va dire de la structuration, c'est-à-dire que on apprend à faire des choses en rythme par exemple.
Explique-nous ce que vous faites.
Bah en fait on joue de la musique.
Est-ce que c'est toi qui as choisi de venir aux vacances apprenantes?
Non, c'est mon père.
Et t'aimes ça?
Oui.
Pourquoi tu as voulu venir ici?
C'est ma maman.
Pourquoi ta maman elle a voulu que tu viennes?
Je n'ai aucune idée.
Et est-ce que toi, tu penses que c'est important de venir ici?
Je sais pas.
Est-ce que tu t'amuses?
Oui.
Et tu t'es fait des copains ici?
Oui.
Et est-ce que c'est intéressant cette activité?
Oui.
Qu'est-ce qui est intéressant dans cet atelier?
Bah, c'est de faire de la musique et de jouer ensemble.
Nous remercions les 6e et les 5e pour leur reportage très intéressant. Maintenant, nous allons écouter la classe de 4e et 3e qui ont réalisé un débat sur comment est-ce qu'ils ont vécu la période du confinement.
Je l'ai assez bien vécu, même s'il y a des moments où forcément le moral a flanché, parce qu'à force de rester seule et seulement avec mes parents, mes copines me manquaient et l'école me manquait et tout le monde me manquait. Du coup, j'avais des moments où je commençais à me sentir un petit peu seule, mais après ça allait mieux.
Mais en fait, c'était un peu agaçant, on va dire, parce que c'était tout le temps, on répétait la même chose, parce que avant le confinement, c'est pas que c'était mal, mais c'était vraiment, agaçant, très agaçant, parce que...
C'était plus intense.
Oui, on devait se supporter encore plus qu'avant, et ça, c'était agaçant.
Moi, la période de confinement, j'ai assez bien vécu, parce que ça m'a permis de me réorganiser... dans tout, déjà de préparer le lycée avec l'organisation des cours à distance et tout ça, de pouvoir me préparer à être plus autonome. Et moi j'ai eu la chance que ma mère était obligée de travailler pendant le confinement, du coup on n'était pas tout le temps les unes avec les autres, et ce qui m'a permis aussi de tenir, parce que sinon je sais que comme on a le même caractère, ça aurait pas tenu du tout.
Alors t'as mangé, tu dis que t'as mangé?
Oui.
Et t'as mangé les trucs que t'as cuisiné? Est-ce que t'as cuisiné au moins?
Ah non, j'ai pris que des Kinder, des chips, et puis les kilos se sont entassés. Hein.
Et donc, attends, c'était spécial au confinement ça, de manger tout le temps? Pourquoi?
Il n'y avait rien d'autre à faire.
Il n'y avait rien d'autre à faire que de manger?
Oui. Si, il y avait Netflix.
Netflix, manger quoi?
Voilà, c'est ça.
Donc du coup, t'as fait Netflix et manger?
Oui.
T'as mangé Netflix.
Pendant le confinement, on mangeait, on regardait, après on dormait. Du coup, c'était tellement devenu une habitude que franchement, on s'en lassait. Même aller dans son lit, genre, parce que avant, quand tu allais à l'école, tu pensais à ton lit, tu disais ah, j'ai trop hâte d'aller dans mon lit pour dormir. Alors que pendant le confinement, on en a tellement, on va dire, bavé du lit que. Quand on va le lire, limite on l'insulte parce que moi, chez moi, mon lit, il y a un trou au milieu. Parce que j'ai tellement dormi que, je sais pas si vous voyez le mot lit, c'est descendu. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis.
Pardon. Ça passait trop de temps dedans, quoi.
Oui, c'est ça. Du coup, en fait, le milieu, il est descendu. En plus, quand tu manges, tu prends du poids parce que t'as rien à faire. Parce que, tu manges, les chips et tout, c'est beaucoup de gras. Et quand tu manges, c'est encore plus. Du coup, tu vois, dans tes lits, tu mets tout descend au milieu. Du coup,
Toi, t'as creusé ton lit.
Oui.
C'était quoi les occupations pour les uns pour les autres?
J'ai regardé beaucoup de live Twitch et j'ai beaucoup joué à Animal Crossing. Les live Twitch, en fait, c'est des youtubeurs ou des streamers qui font des lives, qui lancent des lives sur une plateforme, et c'est spécialisé pour les lives. Ils font un peu de tout, on peut trouver de tout, on peut trouver des jeux vidéo, une personne qui parle juste, ou alors une personne qui monte des vêtements, plein de choses.
Alors moi, pendant le confinement, j'ai trouvé une nouvelle passion, c'est apprendre des danses TikTok. En fait, TikTok, c'est une application où des gens se filment en train de faire plusieurs choses. Ça dépend, il y a plusieurs communautés dedans. Et du coup, il y a une communauté où ils dansent souvent sur une musique. Et moi, j'apprenais ces danses-là parce que je m'ennuyais chez moi. Et je dessinais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour les poster sur ma chaîne YouTube.
Moi, pendant le confinement, ça m'a permis de remettre au sport avec ma mère. Comme ça nous a refait un lien. Et aussi, j'ai beaucoup fait de la cuisine et j'ai beaucoup dessiné. En fait, j'ai repris un peu les bases. Parce qu'en cours, on était tout le temps en cours, et quand on rentrait chez soi, on traînait un peu sur notre téléphone, on était occupé par les devoirs, et là, ça nous a permis de souffler un peu.
C'est vrai qu'on fait du 3 mètres déjà, hein ?
Oui.
Vous avez vécu 3 mois en pyjama ? Non, pour de vrai, t'as vécu toi 3 mois en pyjama ?
Bah oui, j'ai changé mon pyjama tous les jours.
Oui, bien sûr. Non.
Moi, je l'ai changé pour aller dans la salle.
Mais tu changeais de pyjama ?
Oui. En fait, tu mettais un pyjama pour dormir. Quand tu te réveillais le soir, fallait se laver, mettre un autre pyjama pour aller dans la salle. C'était mon quotidien.
Ça ne servait à rien, ce mettre belle. On sortait même pas.
Ouais, et même quand on sort, ça sert à rien.
Ma soeur, elle se maquille.
Du coup, t'as sur le pyjama,
Moi, j'étais obligée de m'habiller, de faire comme si que tout allait bien, parce que sinon, au niveau mental, j'aurais jamais tenu 3 mois. Et pour moi, me maquiller et tout ça, c'est un plaisir, donc je l'ai continué à le faire comme une occupation de base. Et vraiment, moi, j'ai continué tous les jours, même le dimanche, à m'habiller, parce que sinon, je sais que...
Enfin, je me levais le matin, j'enlevais mon pyjama et je mettais toujours les mêmes vêtements. Je me mettais à l'aise dans des vêtements amples, et puis voilà.
Moi en vrai je mettais aussi tout le temps les mêmes vêtements, tout le temps les mêmes pyjamas et tout, et franchement si je m'habillais et me maquillais c'était juste pour prendre des photos sur Snap, hein. Sinon j'étais tout le temps pas présentable du tout, c'est ce que je veux dire, puis je m'en foutais un peu parce que vraiment il y avait personne qui venait, il y avait que mes parents pour me juger, donc
je me coiffais pas aussi.
Moi en fait de base j'avais des jambes, mais un mois après le confinement je roulais chez moi. Je roulais. J'ai appris à rouler dans les escaliers. Je tombais quelques fois. Ça m'a fait mal. J'ai même déjeuné par terre. J'en pouvais plus. J'avais mon portable. J'avais Netflix et j'étais comme ça. Et je roulais.
Pendant le confinement aussi, j'ai essayé de faire un truc parce que je m'ennuyais vraiment. J'ai essayé de faire du sport. Sauf que je pense que ça a duré pas longtemps parce que j'ai essayé un jour et j'ai plus jamais refait ça en fait parce que c'était trop dur pour moi et je m'ennuyais, mais bon, j'avais que ça à faire quoi.
J'ai essayé de me construire des abdos pendant le confinement. J'ai fait une seule fois, j'ai senti les douleurs, j'ai plus jamais refait d'abdos.
Alors, c'est par rapport à ce que a dit Cindy, qu'elle faisait du sport. En fait, je pense qu'on a tous essayé, mais je pense que je sais pourquoi on n'arrivait pas, parce qu'on mangeait, enfin, on faisait du sport, mais comme il y avait la nourriture devant nous et qu'en plus, on ne pouvait pas sortir, du coup, en fait, la tentation...
C'est la nourriture qui a gagné.
Oui, c'est la nourriture qui a gagné, du coup, on faisait du sport, mais en fait, ça ne servait à rien parce qu'on se fatiguait, puisqu'on allait reprendre du poids, donc...
Moi, pendant les 3 mois de confinement, j'ai réussi à tenir une habitude de sport toutes les semaines et tout ça. Mais le problème, c'est après le confinement, j'ai repris une vie normale comme à peu près tout le monde. Et du coup, j'ai plus eu le temps de mettre le sport dans mon emploi du temps, en fait. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai toujours... j'ai aimé ça et tout, mais j'ai arrêté après.
Pendant le confinement aussi, je trouve qu'il y a un truc qui avait beaucoup changé, c'est nos horaires quand on se levait, on se couchait. En fait, moi, tout le temps, au début, quand j'ai commencé, quand le confinement avait commencé, j'avais des horaires normales. Mais plus ça continuait et plus, en fait, je me couchais tard et je me réveillais tard, en fait. Du coup, vraiment, en fait, j'étais décalée. Des fois, je me réveillais à des heures comme 20h et je me couchais à 6h du matin.
Il était 12h, je m'endormais, il était 5h du matin. Et je trouvais que c'était complètement normal.
Tu te réveillais, il était déjà nuit.
Alors moi, je m'endormais vers 7h du matin parce que Netflix m'avait fait un sortilège aux yeux. C'était incroyable. Je me réveillais, je sais pas, 16h, 18h, ça dépendait. 20h même des fois. J'ai déjà fait minuit.
Moi, de base, le rythme, j'ai réussi à le garder à peu près bien pendant le confinement, parce que pour moi, c'était pareil, niveau mental. Je pouvais pas me réveiller à 14h et me dire, je vais commencer ma journée. Donc, je me levais maximum 10h30, 11h. Et par contre, je me couchais vers 3h. Du coup, le matin, ça me piquait un peu. Mais niveau famille, ça va, parce que ma mère, soit elle travaillait quand je partais et tout, et elle voyait que j'avais un bon rythme. Du coup, ça a pas trop gêné.
Franchement, tout le monde a fait ça. On se couchait le matin vers 8h. Et après, on se réveillait, il était 20h, 23h. Et le pire, c'est quand il y a les parents, ils venaient nous réveiller le matin parce que... Il disait qu'il fallait faire les devoirs. Et du coup, quand ils partaient, tu redormais et tu faisais que ça. Voilà.
Moi, mes parents, ils me criaient dessus à chaque fois que je me levais trop tard, parce que ils me disaient « Mélisse, mais t'es court et tout », alors que j'avais pris de l'avance des fois dessus. Et
Mon père, il me traitait tout le temps de feignante, du coup, vu que je me levais pas. Moi, à plusieurs reprises, je me suis fait confisquer mon téléphone pendant le confinement parce que je me réveillais trop tard et je passais trop mon temps dessus, donc ma mère me grondait souvent. Mon père, pareil, parce que du coup, je me couchais trop tard. Et puisque souvent, je faisais des appels avec des amis, je criais trop fort dans ma chambre. Ça fait que mes parents, ils me grondaient tout le temps et il y avait beaucoup de tension, surtout entre ma sœur et moi, parce que ma sœur, elle voulait pas jouer avec moi parce que je m'ennuyais.
Moi, en fait, le soir, en fait, il y a la chambre de mes parents qui sont en bas et ma chambre qui est juste en haut d'eux. Du coup, en fait, je suis devenu un agent secret. J'ai fait des parcours. Je me suis senti comme dans Mission Impossible. Je suis tombé, allez, faut faire ça, pour pas faire de bruit. Et j'ai réussi une fois.
Alors moi, comme nous on est on est une famille nombreuse, du coup les travaux on les partageait, par exemple qui fait la vaisselle et tout. Comme pour les cours c'était facile parce que c'était pas tout le temps la même personne, mais à cause du confinement et du coronavirus, du coup en fait je me retrouvais à tout faire comme moi j'étais la plus petite. Et qu'avant, on partageait. Et là, du coup, je me suis retrouvée toute seule à faire les travaux. Parce que comme j'étais la petite sœur et que j'avais pas de chance.
En fait, moi, pendant le confinement, je me suis trouvée une nouvelle passion, c'est faire le ménage. Parce que mes parents, ils m'obligeaient tout le temps à faire le ménage. Et du coup, franchement, j'étais devenue forte dedans. Surtout pour laver les assiettes et tout. Quand la vaisselle, il tournait pas. Ça, c'était moi qui le faisais. C'était assez chiant, mais j'étais obligée. En plus, j'étais la seule à le faire alors qu'on est deux à la maison.
J'ai pu faire un travail sur moi-même. Je me suis organisée. Je me suis organisée. Je me suis découverte de nouvelles passions. Et puis, je me suis organisée dans ma vie et sur mon plan mental.
Moi, grâce au confinement, j'ai pu m'améliorer en dessin. Des gens ont pu me donner des conseils. Et du coup, ça fait que maintenant, je suis devenue un peu plus forte. Et surtout, j'ai fait de nouvelles rencontres sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est cool.
Moi aussi, j'ai fait de nouvelles rencontres sur les réseaux sociaux. Et franchement, ça me faisait du bien de parler à d'autres personnes que je connaissais pas. Parce que du coup, vu que j'avais pas plus l'habitude de parler à des gens...
Pendant le confinement, on a pu apprendre des choses auxquelles on s'intéressait pas avant parce qu'on avait le temps. Du coup, par exemple, moi, je me suis intéressée à faire des gâteaux, etc. Et ça m'a plu. Du coup,
Avant, en famille, on n'avait pas... toujours le temps parce que comme tout le monde était occupé, du coup on n'avait pas trop le temps de s'asseoir, de s'amuser. Mais grâce au confinement, on a pu vraiment, comment dire ça, renouer les liens. Je sais pas si c'est ce qu'on dit. Dans le confinement, ça a été d'une grande aide parce que franchement avant, c'était vraiment pas comme notre relation, mais là ça s'est vraiment améliorer comme...
Moi, j'ai découvert que j'étais une excellente pâtissière parce qu'un jour, j'ai fait un gâteau parce que je m'ennuyais. Et après, quand mes parents ils l'ont mangé, ils voulaient me forcer à faire des gâteaux parce qu'ils avaient trouvé mon gâteau trop bon. Et depuis, du coup, je sers de pâtissière à la famille.
Je m'organise assez bien, mais c'est vrai que en fait, je prends du temps à m'organiser. Enfin, j'ai un laps de temps où je cherche comment m'organiser le mieux possible. Et c'est vrai que pendant le confinement, j'étais complètement perdue parce que c'est pas du tout comme ça que je fonctionnais de base. J'ai très souvent, je sais où je vais d'habitude, et là, on me dit que je suis confinée, que je dois travailler à distance, et ça a tout chamboulé. Mais j'ai réussi à quand même m'organiser. Après, c'est vrai que les cours à distance, il y a des matières qui étaient plus difficiles que d'autres parce que j'ai la mémoire visuelle surtout et je le vois au prof, je retiens plus facilement quand il y a le prof en face de moi. Donc c'est vrai que le faire à distance sans cours visio et tout, c'était très bon.
Les cours à distance, c'était facile à s'organiser quand on avait le matériel pour. Mais pour ceux qui n'avaient pas d'ordinateur, par exemple, je pense que ça devait être plus chiant. Et aussi, quand il n'y avait pas les profs, par exemple, pour les maths, quand on ne comprenait pas quelque chose, c'était dur quand il n'y avait pas la prof. Mais aussi, par exemple, dans les classes où il y avait du bruit et que là, c'était en cours à distance, c'était plus simple de se concentrer.
Moi, j'ai réussi à très bien m'organiser parce que je mets beaucoup de temps normalement à m'organiser. Et là, je sais pas comment ni pourquoi, mais j'ai réussi à m'organiser très vite dans ce que je faisais. Et du coup, je terminais des devoirs pour toute la semaine. Et du coup, j'étais tranquille les autres jours.
Moi, pour être honnête, au début, j'étais à peu près organisée et j'essayais de faire mes devoirs dans les temps pour les rendre, etc. Sauf qu'à un moment donné, vu déjà que je me couchais très tard et je me réveillais très tard, bah, ça arrivait que j'oubliais de rendre des travaux. Et puis des fois aussi, j'étais désorganisée, du coup ça fait que je rendais pas tout et que bah, en plus de tout ça... En fait, j'étais un peu perdue et puis j'avais pas la motivation en fait pour faire mes devoirs. Surtout que personne ne me poussait pour faire mes devoirs ou quoi, donc ça fait que bah, à un moment donné, je les faisais même plus.
Une fois, j'ai essayé de faire mes devoirs. Sauf qu'en fait, vu que je l'ai envoyé à 4h du matin, et ben mon prof m'a dit il faut dormir. Sauf que quand je dors, et ben c'est l'heure où il faut rendre. Du coup, j'ai rien rendu.
Ben moi, au début du confinement, j'étais motivée parce que j'ai cru que ça allait être facile, comme parce que franchement, les profs des fois ils nous saoulaient. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, sans voir leur visage, bah, ça allait être plus facile et que on allait, bah, j'allais bien avoir des bonnes notes. Mais en fait, au début, j'étais vraiment motivée, mais vers la fin, on va dire 2 semaines après, parce que j'ai relâché parce que j'ai dit, dans tout cas, genre, c'est pas grave, ça va pas compter dans nos notes puisque, c'est à cause du corona. Mais vers la fin, je me suis, en voyant les conséquences, j'ai voulu me remettre au travail comme au début, mais j'ai pas réussi parce que c'était devenu une habitude de pas travailler. Du coup, bah, ça a été très dur pour moi à la rentrée. Donc,
ouais. Est-ce qu'on apprend à apprécier ses profs différemment quand on les voit pas pendant 2 mois?
Oui.
Du coup, ouais, ça veut dire quoi? On les apprécie plus ou...
Non, c'est pas qu'on les apprécie. C'est pas qu'on les apprécie plus, c'est que vu qu'ils nous saoulent moins parce qu'on les voit pas, enfin on les voit moins, et bah ils sont plus attentifs quand on est là. Et puis ils prennent plus leur temps, du coup bah, ils sont plus agréables.
Je vais apprendre certaines choses sur mes profs que je savais pas avant. Et puis aussi, du coup, bah, dès que j'avais besoin d'aide, eh ben, je pouvais leur parler plus facilement parce que du coup, j'étais un peu plus relaxée vu que je ne les avais pas devant moi.
Ça change la relation avec les profs, oui, de bosser comme ça. Et en quoi ça la change?
Bah, ça, ils nous manquent.
Sérieux, t'es en train de dire ça?
Ah, vas-y. Non, mais vraiment. Genre, les profs, ils nous manquent. Enfin, d'habitude, on n'a pas envie de les voir. Mais là, il n'y avait personne pour nous aider. Ils ne répondaient pas aux mails. Enfin, c'était trop bizarre. Et puis, t'as l'habitude de les voir tous les jours. C'est comme ta famille. Même si t'as pas envie de les voir, si tu les vois plus, et bah, ils te manquent. Du coup... bah, ouais, ça, c'était bizarre.
On va aborder les infos sur cette question-là, parce que quand on est enfermé à la maison, on a besoin d'avoir des infos sur ce qui se passe dehors. Comment ça a été ressenti, ce lien avec les informations, je parle du bulletin d'information, quoi?
Personnellement, ma mère, elle regardait quand elle revenait du travail ou quand elle partait le matin, elle regardait BFM TV. Du coup, par exemple, le matin, quand elle commençait à 7h, moi, je me levais pas à 7h, et quand j'allumais la télé, c'était BFM TV. Au départ, j'ai commencé à regarder juste pour voir, parce que je m'inquiétais quand même par rapport à ce qui se passait et tout ça. Mais en fait, c'était devenu anxiogène. Par exemple, ma mère, je sais qu'elle s'inquiétait tout le temps, mais elle allumait quand même BFM TV, il répète toujours la même chose. Et c'est juste horrible, c'est ultra anxiogène. Déjà que cette période-là n'était pas super, mais en plus avec les informations, c'est quelque chose que j'ai arrêté complètement de regarder, même si je regardais quand même des fois comment ça se passait, tout ça.
Quand on regardait les chaînes, alors on passe de la 1, donc... Ils disent la même chose pendant une semaine. La 2, pareil. La 3, c'est pareil sur toutes les chaînes. Covid, 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 Covid. Parlons de la même chose.
Moi, j'ai trouvé cette période vraiment anxiogène parce que, en fait, moi, vu que mes parents ils regardaient le 20h tous les jours, eh ben, en fait, on voyait le compteur de mort augmenter. Et du coup, ben, moi, ça a commencé à me créer une petite phobie de sortir dehors. Et du coup, au début du déconfinement, je sortais plus parce que du coup, j'avais trop peur de l'attraper et d'avoir des contacts avec les
gens. Moi, je sais pas pourquoi, mais déjà, les infos, j'avais commencé à les regarder en même temps que mes parents les regardaient à la télé. Mais en fait, je voyais bien qu'il y avait beaucoup de morts durant cette période, etc. Mais ça m'inquiétait pas trop. Enfin, je sais pas, mais moi, personnellement, j'avais pas vraiment peur, en fait. Ça me faisait rien.
En fait, au début, on regardait parce que c'était intéressant pour nos familles qui habitaient... dans les villes où il y en avait beaucoup, on regardait, sauf que en fait quand tu changeais de chaîne, soit ça changeait toujours de discours, soit c'était toujours la même chose. À part les chiffres qui augmentaient, bah il n'y avait pas d'autres informations à part nous sommes en guerre.
Du coup, c'était un peu stressant, ouais. Mais après, on a fait au fur et à mesure et on a arrêté de regarder.
Mais ils vont dire quelque chose, et sur Internet, en fait, ça va être formulé autrement. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va le redire autrement, et ça part... Il y a toujours des extrêmes, et du coup...
Aussi, il y a les informations, mais sur les réseaux sociaux. Et ceux-là, c'est les pires, je pense, parce qu'en fait, ils disent très souvent... n'importe quoi.
On parle des vérités.
Oui, et très souvent, ils reformulent en fait les choses, mais complètement à l'inverse. Et du coup, c'est anxiogène encore plus parce que ils font qu'on ait peur en fait. Ils en font exprès, limite, que ça devienne une peur.
Merci aux 4e et 3e de leur prestation sur le Covid-19.
Les CP ont lu un livre audio sur un cochon qui voulait manger un loup. Deux histoires commencent. Dans 3, 2, 1.
C'est toujours la même chose. À la fin, c'est le loup qui mange les cochons.
Mais aujourd'hui, c'est moi qui va manger le loup.
Pour manger un loup, il vous faudra une très grande marmite.
Avec beaucoup d'eau, mettez sur un petit feu. Ajoutez des carottes, des poireaux et du sel.
Une grande cuillère. Pour remuer.
Et bien sûr, il faudra un loup. Malheureusement, je n'ai pas de loup. En attendant, voyons ce qu'il y a dans le garde à manger.
Un loup !
C'est pas juste, c'est toujours la même histoire.
On remercie la classe de CP pour cette superbe histoire.
Un autre reportage a été fait par les CE1, CE2.
C'est parti pour le reportage.
Que faites-vous comme activité ?
Oui, on fait de l'art plastique et un peu d'histoire de l'art.
Aimez-vous l'art plastique ?
Bah oui, j'adore ça.
Mais vous dessinez ?
Non, je ne sais absolument pas dessiner. Par contre, je fais beaucoup de photographie. Parce que comme je ne sais pas dessiner, c'est beaucoup plus pratique la photo. Alors, on utilise de la gouache principalement. Et on peint sur des films plastiques transparents. Pour changer un peu de la feuille de papier blanc.
Qu'est-ce que vous dessinez ?
Alors... Moi, je dessine rien, en fait. Ce sont les élèves qui dessinent une partie d'un personnage. Et l'idée, c'est que tous les groupes dessinent chacun une partie du personnage et qu'on va reconstituer tout à l'heure dans la structure qui est en bas dans la cour.
Et c'est tout, on fait du découpage ?
Non, on fait pas... Enfin, si, on va découper le fil pour accrocher les peintures, mais c'est le seul découpage qu'on fait.
Est-ce que vous faites des avions ?
Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout des avions. Même si finalement les dessins vont flotter au vent. Mais c'est pas du tout des avions.
Est-ce que vous aimez l'art plastique ?
Ouais. Oui, on aime l'art plastique. Oui, j'aime l'art plastique.
Pourquoi vous aimez l'art plastique ?
Parce qu'on travaille ensemble en groupe et on fait de l'art.
Vous aimez l'art plastique ?
Non, parce que. Tout ce qui est dessin, peinture, tout ça, c'est pas mon truc.
D'accord.
Alors, l'origami, effectivement, c'est un art, l'art du pliage. Donc, ça vient du Japon, des pays asiatiques. Et donc, au départ, on prend du papier, feuille de papier, qu'on va plier. Et effectivement, cette feuille, comme tu disais, va donner des formes. Ça peut être des animaux, ça peut être des personnages, etc. Donc, moi, ce que je vous propose, comme c'est bientôt les vacances, vous êtes là en vacances apprenant, donc un peu encore en apprenant et un peu encore et bientôt en vacances, mais encore quand même un peu en vacances. Je vais vous proposer de faire en pliage en origami une jonque. Une jonque, c'est des bateaux, un petit bateau qu'on trouve.
Oui, je sais.
Où ça ?
En fait, dans les rivières.
Ils mettent, ils plient, après ils les mettent sur la rivière.
Bonjour.
On est venu pour faire un reportage sur votre activité et pour le travail. Qu'est-ce que vous aimez dans l'art plastique ?
Qu'est-ce que j'aime dans l'art plastique ? Bah, c'est une question vague, ça. Bah, tout. J'aime bien voilà, le dessin, la peinture, la sculpture. J'aime bien créer, en fait, dans les arts plastiques. J'aime bien la création. Partir de rien et arriver à quelque chose.
Qu'est-ce que vous faites
dans l'art plastique.
Ben là aujourd'hui, avec les élèves là, qui sont là, on va faire donc ce qu'on appelle de l'origami, un art japonais, l'art du pliage. Donc on va plier une feuille pour fabriquer donc une jonque.
Qu'est-ce que les élèves aiment dans l'art plastique?
Ah ben je sais pas. À eux,
Posez-leur la question.
Qu'est-ce que vous aimez dans l'art plastique?
Moi, tout. Tout, la peinture, le dessin, le coloriage. Comment ils font les dessins, les
d'avoir
coloriages.
D'avoir des imaginations, de pouvoir voilà. Créer des choses.
Par exemple, un mosaïque avec des dents.
Ouais. Moi, j'aime tout aussi parce que c'est... En fait, tu peux inventer tout, qu'est-ce que tu veux, tu peux... T'as pas de règles.
Moi, j'adore les statues et aussi les dessins qu'il y a dans les musées et tout, les sculptures qu'ils font les peintres. Et aussi, parce que nous, on va faire au moins quelque chose pour essayer. Après, on... Ben voilà, c'est bon.
Et on a une belle... comment dire? On a une maîtresse qui va nous aider à faire comme les lycéens, à imaginer des trucs, à les faire. Ouais. C'est bien. Il y a quelqu'un qui nous aide au moins.
En même temps, il faut... En même temps, si on n'arrive pas, on demande à la dame pour qu'elle nous aide. Parce que nous on est dans des écoles, on est dans CE2, CM1 ou CM2 ou des grands qui sont là. Et en même temps, faut que nous aussi, pour que peut-être, parce que nous, si on va grandir, si on a terminé notre collège, nous, on pense qu'il y en a qui va y aller dans ce lycée et savoir déjà comment s'appellent les maîtresses, les maîtres, et pour avoir un jour le bac.
Est-ce que vous aimez l'art plastique?
Oui, 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 oui.
Oui. Surtout avec une maîtresse aussi sympa.
Oui.
Est-ce que vous faites dans l'art plastique?
Ben, je sais pas encore. Nous, on va faire quoi, maîtresse?
Est-ce que quelqu'un se souvient?
Aujourd'hui, on va faire de l'origami. On va faire une jonquille. C'est une sorte de bâton. Une jonquille. Mais en fait, si on n'aurait pas fait ça, peut-être qu'on aurait fait un dessin particulier qu'on pourrait avoir un reportage.
Bonjour, on est là pour faire un reportage.
Un reportage.
Alors,
qu'est-ce que vous faites comme sport?
Athlétisme. Je fais de l'athlétisme.
Qu'est-ce que tu fais comme sport?
Non.
Qu'est-ce que les élèves aiment?
Est-ce que vous aimez ce sport?
Non.
Oui, j'aime ce sport.
Non. Non, c'est que... Attends. Est-ce que les élèves aiment le sport?
Oui, dans l'ensemble, tout le monde aime le sport. Tout okay. Le monde.
Qu'est-ce que vous aimez dans le sport?
Rien.
Pose la question aux autres. Pas moi.
L'aspect de se
dépasser.
Tu connais les badges. Qu'est-ce que vous faites comme sport?
Là, en ce moment, on fait athlétisme.
Qu'est-ce que les élèves aiment dans le sport?
Football.
Qu'est-ce que vous aimez
le
dans le sport?
Le fait de se dépasser.
5, 4, 3, 1. C'est bon.
Bravo,
tarte
de terre.
On dit merci?
Merci.
Yes, merci à vous, c'était sympa. Yes.
Au revoir.
Merci pour les CE1, CE2, pour les reportages.
L'émission est bientôt terminée. Il reste une dernière interview de la classe de CM2. Sur le racisme et la pauvreté.
On écoute la dernière.
Vous rencontrez un enfant pauvre dans la rue. Il vous demande de l'aider. Que ferez-vous?
On l'aide. On l'aide à se relever et on lui donne de l'argent.
Bah moi, si je suis avec mes parents, je vais l'aider, mais toute seule, ça sera un peu compliqué parce que après, je dis pas à mes parents, donc mes parents.
Tu peux mettre dans la famille accueil.
Comment devient-on pauvre?
En faisant n'importe quoi avec son argent.
On achète beaucoup de choses et après on a plus d'argent.
En faisant pas ses études. Parce qu'en fait, si on ne part pas à l'école, donc on ne pourra pas faire de travail, donc on n'aura pas d'argent, donc on ne pourra pas avoir une maison et plein d'argent.
C'est aussi avoir le respect avec des parents. Si tes parents étaient éduqués pas bien, comment tu vas apprendre tout? Tu seras dehors, dans la rue, comme ça, sans rien, sans avoir tout ce que tu connais.
Te faire jeter à la porte par ses parents parce que t'as pas été sérieux avec ta vie.
Déjà, t'as l'enfance, après t'as le brevet, et si tu réussis pas le brevet, et après t'as 3 ans de suite, après si tu réussis pas, après t'as le bac. Après si tu réussis pas le bac, c'est la fin.
Les choses, quand par exemple, il y a un travail où t'as pas besoin de brevet, c'est pas dans tous les travaux que t'as besoin de brevet.
Comme par exemple la coiffure, t'as pas besoin de brevet pour faire.
C'est pas parce que t'as pas réussi tes études, ça veut dire que tu vas devenir pauvre. Ça veut pas dire que t'as pas arrêté de t'aimer parce que t'as pas réussi tes études.
On peut être pauvre aussi parce qu'on est trop généreux. Bah, par exemple, on voit quelqu'un dans la rue, il fait semblant d'être pauvre, il découpe ses habits, il fait 20 euros s'il vous plaît. Après, vous lui donnez 20 euros, vous êtes tout le temps gentil. Vous savez pas dire non, bah vous pouvez vite devenir pauvre.
Il y a un pauvre, il marche tout le temps dans la rue, personne le calcule. C'est injuste.
C'était une dame, elle avait un panneau, c'était à la gare et elle avait écrit « Aidez-moi, je viens de Syrie, s'il vous plaît, aidez-moi ». Je voulais l'aider, mais papa, il a dit « Non, elle trouvera bien quelque chose, t'inquiète pas pour elle et tout ». Mais moi, ça me faisait de la peine. Et je me suis dit que quand je serai grande, bah, je donnerai un peu d'argent aux SDF.
Mais si tout le monde se dit comme ton père « bah, je vais pas l'aider, il y aura bien quelqu'un qui le fera, bah, un jour, elle sera jamais aidée ». Parce que si tout le monde se dit ça.
Les aussi, il y avait un SDF, un être vivant, qui passe tout le temps vers notre école. Et à la Madeleine aussi, il y en avait un aussi. Bah, ça fait mal au cœur parce qu'il passe tout le temps, on a l'impression qu'il prend pas de voiture, ses pieds, ils sont. Et je m'imagine à la place de lui, avoir ses pieds, marcher tout le temps, ne pas savoir où dormir, avoir froid, se faire piquer par des bêtes et tout.
Bah, ça fait mal au cœur. De l'avoir comme ça, en plus à côté de l'hôtel à Paris, il y a beaucoup de gens, mais il y a des personnes qui passaient de l'argent, mais pas d'autres qui passaient devant eux. Mais il y en a un qui leur donnait du pain, de la nourriture, quoi.
Il y a même une famille avec un bébé, une grande sœur et une maman. Le père de notre curé, et ben il les a hébergés dans l'église parce qu'ils étaient seuls. Et la mère, elle était sur le point de mourir et laisser les deux enfants. Donc la mère, on l'a amenée à l'hôpital et les deux enfants, on les a gardés à l'église.
Vous êtes prêts à les aider dans une association qui aide les SDF,
oui.
Tout ça?
Oui.
Les prendre et les mettre dans un foyer ou dans une famille d'accueil. Alors pourquoi vous le faites pas?
Mais nous sommes des enfants.
Bah parce que nous sommes des enfants, on n'a pas assez d'argent, on travaille pas. Comment tu veux qu'on aide une personne si on est sur le contrôle de nos parents? Nos parents, déjà, on travaille pas. C'est nos parents qui font tout. On peut pas les voler l'argent à nos parents comme ça. Même si on demande, ils veulent investir dans leur travail.
Mais comment ça, tu vas aider une personne qui est plus grande que toi? Normalement, c'est le contraire.
Vous pensez que les enfants n'ont pas de pouvoir?
Parce qu'on n'est pas assez grand pour avoir des pouvoirs. Moi, je pense qu'on a le pouvoir de sensibiliser les gens à arrêter la pauvreté parce que on est des enfants et souvent on écoute les enfants parce que c'est eux les plus petits et les plus conscients. Ils n'ont pas de pouvoir parce que des adultes, ils se font intimider par leur pauvreté et voilà.
On a un pouvoir, on a le pouvoir de parler, de se faire entendre, mais pas le pouvoir quand même d'abuser, on n'est pas trop haut. Les parents croient qu'on n'a pas assez le temps, on n'a pas assez l'âge pour réfléchir. Parce que nous, si on nous donne de l'argent, tout ce qu'on pense c'est bonbons, acheter, jouer. Mais les parents, ils investissent, ils font leur travail, ils aident, ils... Je sais pas comment le dire, mais ils étudient, ils investissent, ils payent leurs enfants pour y aller à l'école.
Bah moi je me dis que, par exemple pour nous, 1 euro c'est rien.
Mais avec 1 euro, tu peux t'acheter une baguette. Et pour les SDF, une baguette, c'est déjà beaucoup.
On peut demander de l'argent à nos parents et les aider chaque jour.
On construit une cabane pour les pauvres, comme ça. Beaucoup de pauvres, ils auront à manger et on leur apportera à manger. Comme ça, ils auront un toit pour dormir.
Que pensez-vous du racisme ?
Que ça se fait pas de traiter les gens comme ça.
C'est pour ça que tout le monde a le droit de s'exprimer et que il y a personne qui est au-dessus de l'autre.
Et que j'ai découvert tout ce qui s'est passé, ce que les Noirs ils ont vécu. Moi ça m'a choqué parce que je me dis on est tous humains. C'est juste qu'on a plus de mélanine que vous. Et enfin, pas tout le monde, mais il y en a certains qui pensent que les Blancs sont une race supérieure et que nous, on n'est pas comme vous, on doit être traité moins bien que vous. Non, c'est pas du tout ça. On est tous humains.
Oh. Moi, Dieu, en fait, nous tous, on est pareil. Blanc, noir, métis, toutes les couleurs, on est pareil. On a bouche, nez, tout, on a tout pareil. Donc, il n'y a pas de racisme. Oui, on n'a pas droit. On a droit de ne pas s'aimer, mais pas se tuer. Ouais.
En fait, peu importe la couleur de peau, on reste tous frères. On a la même race, on est tous humains.
Il faut savoir ce que les gens souffrent tous les jours contre le racisme.
Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour arrêter le racisme ?
Se manifester. Car si on se met tous, peut-être on réussira.
Moi, pour arrêter le racisme, ce que j'aimerais faire, c'est qu'il y ait déjà un président noir et il impose des règles, enfin, ou une présidente, ça dépend, mais il impose des règles comme ça. Après, que les Blancs ils comprennent, que les Blancs racistes comprennent qu'on n'est pas des races inférieures. On est tous égaux. C'est juste une différence de peau, c'est tout.
Il y aura encore plus de problèmes s'il y a un président noir, parce que s'il y a un président noir, tous les Blancs vont croire qu'il y a un président noir parce qu'il veut aider les Noirs, parce qu'ils sont sans défense, ils veulent les aider et ils vont faire du mal aux Blancs.
Et pour Barack Obama, tu t'en fais quoi ? Est-ce que Barack Obama, il a aidé les États-Unis ? Est-ce que les Blancs, ils ont voulu se révolter ? Non.
Il les a aidés, mais il y a toujours le racisme.
Merci au CM2 pour leurs interviews croisées très intéressantes.
Bonsoir. Avant de vous quitter ce soir, allons tous ensemble vers un au revoir. Bonsoir. Avant de vous quitter ce soir, allons tous ensemble vers un au revoir.
Mohamed Amin,
Ferlud,
Daïlari,
Ahmed,
Hicham.